Ce podcast est enregistré dans le studio de choc.ca à Montréal, sur le territoire non cédé par les Premières Nations qui l'habitent encore.
C'est quoi déjà? Bon.
Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les bien
parce
n'oubliez égarés, lumière dorée.
Alors,
bonsoir
les beautés,
bon.
Nous sommes aux accoucheuses d'idées. Alors, aujourd'hui en fait, j'avais le goût qu'on soit un peu comme autocritique de notre génération à nous. Puis qu'on prenne le temps de s'analyser un peu, va comme... C'est évidemment qu'on va aller un peu dans la généralisation, là, j'imagine. Puis évidemment que ce qu'on dit, ça va pas être « toutes les personnes de notre génération sont comme ça ». Mais c'est vraiment juste de nos perceptions personnelles. Fait que ça se peut que ça soit différent là, pour chacun, chacune, de partout. Mais de comment nous, ici, autour de la table, on se perçoit. Puis je pense qu'on peut se permettre de se critiquer un peu. Alors voilà.
Ah oui, de temps en temps, quand même.
Ben, c'est ça. Oh. Ça fait du bien là, de se resituer un peu. Donc, comme je vous avais posé cette semaine, comme la première partie du balado, les premières questions que j'avais dit, c'était, mettons, que vous pensez à comme un grand point que vous aimez particulièrement de notre génération, en général, là, pas par rapport à l'or, juste de manière générale. Puis un grand point que vous aimez moins ou qui vous arrive de remettre en question par rapport à notre génération. Puis encore là, une fois, de manière générale, pas par rapport à l'or pour l'instant. Parce qu'en soi, on reviendra comme plus tard à notre génération en rapport avec l'or.
Peut-être qu'on peut dire à quelle génération on appartient. Parce que,
ouais.
Tu sais, genre, comme on est tout autour de la table nés après les années 2000, ça veut dire qu'on appartient à la génération Z.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'on appartient à ceux qui sont nés avec la technologie, genre diffusée, quotidienne, etc. On s'appelle les zappeurs zoomers, genre ceux qui peuvent zapper la télévision.
C'est terrible.
Et ben, c'est nous, notre génération, genre on est dans cet interstice-là. Donc, ouais. C'est ça.
Mais déjà, le mot zap, il est vraiment très vieux, je trouve. De dire je zappe à la télé, c'est très années 90.
Avec la télécommande.
Ah, vous êtes les zappeurs. Vous.
Quel mot qu'on pourrait prendre.
C'est les boomers qui nous ont donné ce mot.
Ouais.
C'est les scrollers.
Les scrollers.
On est les scrollers. Putain, je pense qu'on est les stalkers aussi.
Oh,
j'y reviendrai.
Mais peut-être les sauveteurs aussi de ce monde qui va mal.
Plein de beaux mots, de moins beaux, c'est ce qu'il faut.
Mais... Est-ce que tu serais de commencer par les négatifs, comme ça on finit sur du positif?
Ouais,
on peut faire ça. Mais aussi, c'est ça, j'ai hâte de voir, mais vous me direz si je me trompe, mais j'ai l'impression aussi que peut-être nos perceptions de nos générations vont être différentes en fonction du Québec, de la France aussi. T'sais, j'imagine que nos générations n'agissent pas de la même manière nécessairement, qu'on a comme un truc général, ouais, comme implanté dans notre génération, mais j'imagine que de chaque continent, de continent en continent, ça doit changer aussi. Là.
C'est ça, ouais, certain.
OK. Alors, je vous laisse commencer. Qui a le goût de se tremper?
Je dirais qu'on est comme vraiment individualiste, donc ça fait en sorte qu'on valorise beaucoup le choix parce que c'est comme un peu ça, genre la prémisse, là. Tu sais, c'est comme, t'es reconnu en tant qu'individu qui s'autodétermine et non qui se place, tu sais, qui se positionne dans une culture, genre, ou une société. Fait que je trouve ça cool parce qu'on utilise souvent ça comme, par exemple, dans les contextes d'agentivité, là, ou de, genre, ben de se donner du pouvoir, mettons, quand t'es une population opprimée. Mais je trouve que en même temps, l'affaire, c'est que ça s'articule beaucoup dans... ben juste dans le système capitaliste, t'sais. Fait que c'est comme si c'était un peu une condition, tu sais, c'est comme on veut que tu t'autodétermines. On veut que tu te racontes toi-même, que tu élèves ta voix, mais je trouve que... Puis je trouve ça beau, mais c'est juste que ça vient avec d'autres aspects plus négatifs de ben un peu j'ai envie de dire l'illusion du choix là, mais pas que là. Mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire ou c'est pas clair?
Oui oui.
Je vais peut-être donner un exemple.
Mais ouais, peut-être.
OK. Mm-hmm. Ben par exemple un truc positif de notre génération par rapport au choix, je dirais que c'est qu'on met beaucoup on parle beaucoup du consentement. Fait que tu sais c'est comme de moins le voir comme une injonction, tu sais comme un impératif, tu sais comme de moins voir le rapport sexuel comme de manière vraiment hétérosexuelle, souvent d'un homme envers une femme, puis que tu sais c'est comme vous voyez qu'est-ce que je veux dire.
Oui.
Donc on se positionne puis on donne notre consentement. Fait qu'on peut s'écouter. Mais un mauvais exemple de ça, je dirais que c'est ben, peut-être que ça se transpose sur la consommation à outrance, tu sais, comme tous les choix qu'on a quand on va magasiner ou des trucs comme ça.
C'est qu'en fait, j'ai l'impression que la définition de l'individu se passe en dissonance à l'instinct, où en fait, on est, malgré tout, nous sommes des singes qu'on a habillés et qui ont des besoins qui sont complètement cérébraux et sans fondement métaphysique. J'en ai aucune idée de comment pour les analyser. Mais on a tendance à vachement être dans notre mental et dans l'analyse de qu'est-ce qu'on produit de nous. Et ce truc-là, on peut le voir par exemple en amour. Moi, j'ai plein d'idéaux amoureux qui sont en fait instinctivement pas pour moi à l'heure actuelle de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire ?
Attends,
Mettons, tu vois, les idéaux conceptuels des groupes sociaux auxquels j'appartiens, de mon entre-soi personnel, donc qui sont souvent des groupes queer, polyamoureux, etc., me ressemblent dans les idées, mais instinctivement à l'intérieur de moi, ça me crée des grandes dissonances. Je ne pourrais carrément pas, par exemple, me sortir de mon instinct amoureux de vouloir fusionner avec quelqu'un, être à deux, ce genre de choses-là. Il y a ce truc-là qui existe pour moi et qui, du coup, que je dois écouter pour construire des relations libres, par exemple. C'est parce que, des fois, je l'annule justement pour le besoin de liberté, mais en fait, au final, ça sort toujours. L'instinct est là, l'émotion est là, quoi. Puis il y a ce truc de avoir besoin de s'encadrer comme individu, de se définir dans des cadres fixes pour pouvoir bien rencontrer l'autre et lui dire dans quel cadre fixe on est, ça crée un espèce de truc très figé, alors que j'ai l'impression que je ne suis qu'un conduit de vie. Je n'ai pas l'impression d'être quelqu'un. Le seul truc qui fait que je suis quelqu'un, c'est que j'ai un prénom. Puis comme je vous en ai déjà parlé beaucoup, je n'ai pas de mémoire personnelle. Il y a ce truc où en fait, j'existe comme un fluide, que chaque rencontre me déplace. Chaque moment de vie me déplace et chaque minute est vécue comme un moment de vie. Donc, genre, je pourrais pas dire... Par exemple, genre, il y a plein de moments où je me dis, bon, OK, ma couleur préférée, c'est le vert d'eau. Mais en soi, est-ce que le vert d'eau, c'est vraiment ma couleur préférée? Non. Tu comprends?
Et tu penses que, du coup, la génération actuelle...
C'est une couleur. C'est une couleur entre le turquoise et genre le vert. Le vert d'eau.
C'est la couleur des marécages.
Les marécages. Ah oui, tout est lié.
Est-ce que du coup, tu penses que ce problème de t'arrives pas forcément à trouver ton identité, c'est aussi...
Mais c'est pas que je veux pas la trouver. Genre, je veux pas la chercher.
Okay.
Parce que j'en ai rien à faire d'être une identité.
Et tu penses qu'on te pousse du coup dans cette génération à trouver ton identité ?
Mais c'est ça. On a besoin d'exister. Genre, on a besoin d'être célèbre en ayant une identité bien définie. Mais je n'ai aucune envie de me figer dans des principes préconçus identitaires alors que je suis une je suis fluide, vous comprenez ? Du jour à l'autre, je peux être habillée différemment, je peux aimer différemment, je peux aimer 1000 personnes comme en aimer qu'une, je peux m'aimer moi comme ne pas m'aimer, je peux avoir envie de faire de la peinture comme avoir envie de faire du théâtre.
Mais c'est vrai que c'est comme valorisé, on dirait, dans notre société.
D'être unique.
Puis si, justement, on n'est pas capable de t'en mettre juste un mot sur qui ça. On est, ben ça marche pas. Genre, tu sais, moi, on dirait, j'avais une amie, elle avait répondu à plein de questions, puis elle savait tellement, on dirait, genre... facilement ces questions-là, on dirait. Puis moi, j'étais comme, ah, mais je sais pas. On dirait, des fois, je suis ça, des fois, je suis ça. Genre, tu sais, on dirait, c'est tout le temps différent. Fait que là, c'est tellement difficile, justement. Puis là, on dirait, j'admirais cette personne-là, mais...
Eh oui.
Tu sais, peut-être que c'est pas obligé non plus de savoir ça, genre. Tu sais, on est pas...
Mais j'ai une question pour vous. C'est quoi être quelqu'un? Vous voyez?
Oh my God.
C'est quoi être quelqu'un? Parce que tout le monde veut être quelqu'un.
Puis tu sais, on dit tout qu'il faut se connaître, genre, puis il faut savoir on est qui, mais... Tu sais, c'est ça. Mais c'est vrai. Mais on devient quelqu'un, tu sais, comme on parlait de personnage la dernière fois, mais on a tous comme un peu un personnage en ligne ou un personnage. On connaît tous des gens sur Instagram, on sait c'est qui par rapport à leurs amis, leur cercle, leur photo. Il y a des gens qui, dans nos têtes, je sais pas, moi, il y a des gens qui sont comme. Ils deviennent quasiment célèbres. Je les vois dans la vraie vie, puis je suis comme, oh, c'est quelqu'un d'Instagram. Mais c'est pas quelqu'un de connu du tout. C'est juste quelqu'un qui existe dans ma vie par juste une image, une façon.
Du coup, c'est ça, c'est quoi? C'est quand dans les réseaux sociaux, ben, t'as une... je sais pas si ça s'appelle une bulle médiatique, non, c'est pas ça. Je crois que t'as une espèce de bulle qui définit genre, ce que tu vas voir sur les réseaux sociaux. Puis ta bulle, elle va vraiment être différente d'une bulle de quelqu'un
d'autre. Comme un algorithme?
Ben, en fait, c'est pas ça. C'est comme tout. Ouais, c'est l'algorithme qui va te mettre des gens qui vont apparaître. Mais tu sais, c'est aussi comment toi, t'as choisi les gens que t'ajoutes. Mm-hmm. Fait que, en fait, la bulle de quelqu'un sur les réseaux, ça va être vraiment différente de la bulle de quelqu'un d'autre. Fait qu'on est comme dans une vision du monde qui nous appartient, mais qui est aussi très restreinte parce que, justement, les algorithmes sont aussi faits pour te laisser dans cette bulle. Mais où les gens pensent pareil.
Et dans ta case. Qui se ressemblent, et dans ton truc figé.
Ouais, ouais.
Mais c'est ça qui
est dangereux. C'est dangereux, vraiment.
C'est très dangereux, oui.
Oui. Mais parce qu'on dirait que c'est nos expériences qui te convainquent de... ou qui te donnent une vision de la vie qui est très, très biaisée, des fois, là. Mais tu vois juste des choses qui confirment ta vision de base.
Mais puisqu'on dirait que c'est nos expériences qui nous permettent d'être qui on est, un peu, genre. Mais tu sais, si on avait vécu complètement autre chose, est-ce qu'on serait complètement différent ou c'est juste en nous, genre,
c'est ça.
Être comme ça, mettons? En tout cas, je sais pas.
Mais c'est ça ma question. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'être quelqu'un? J'ai vraiment envie que vous y répondiez. Comment vous dites? Genre, je suis quelqu'un. C'est quoi?
Mais c'est de comprendre ses préférences, puis... Vas-y, excuse-moi.
Non, mais juste comme ça, on se coupe. On peut peut-être faire un peu retour de la parole. Thomas, de la parole, s'il vous plaît. Mais être quelqu'un... Mais je pense que, en fait, justement, de dire... De penser à soi comme une essence, tu sais, qu'on est toujours comme la même chose au courant de notre vie, c'est juste qu'on va générer différentes choses en fonction du contexte. On dirait que moi, ça me fait peur un peu de penser comme ça, parce que justement, je trouve que c'est un peu... Je trouve que c'est un peu enfermant. Puis je pense que, encore une fois, tu sais, j'ai l'impression que c'est quand même une réponse à notre incertitude, tu sais, de se penser comme si on avait une essence, genre, de nous, puis que, tu sais, peu importe le contexte, on va toujours rester la même personne, mais juste qu'on va comme manifester des choses différentes. Puis au contraire, tu sais, ben, je pense que ça peut faire peur de s'appréhender comme un être, un ou une individu qui change en fonction du contexte, mais je trouve aussi que ça peut être très, très réconfortant, tu sais, qu'on ait une marge de manœuvre, parce que, tu sais, j'ai l'impression que si on se voit comme une essence, une identité presque figée à l'intérieur, oui, vous comprenez?
Mais on en connaît. Mmh. Vous voyez, on a tous eu un prof ou une prof qui est très sévère et tu sais exactement quand est-ce qu'il va être en colère. Mmh. Et tu sais exactement qu'est-ce qui va le déranger, qu'est-ce qui va faire qu'il va te regarder mal. C'est des personnalités très acariâtres. Mmh. Plus t'es figé, plus c'est dans une psychorigidité de toi-même où tu sais que tu veux mettre une chemise rose et que tu mettras qu'une chemise rose toute ta vie parce que c'est ta couleur préférée. Mmh. Plus c'est des gens qui ont une peur du mouvement. Mm-hmm. Une peur de justement l'incertitude du fait que
ouais.
être un corps humain, c'est être voué à vents et marées. Mm-hmm. Et qu'on est lancé dans le bateau de la vie comme ça et que tu sais pas ce qui va t'arriver, quoi.
Mm-hmm. Avec les cons qui changent pas d'avis.
Ah, il y a que les cons. Mm-hmm. À ça.
Mais peut-être que c'est juste rassurant, genre, de se dire « Ah, oh, je suis comme ça. Ah, » Puis, tu sais, on dirait que c'est peut-être moins anxiogène oui, parce que si tu te dis « Ah oh, non, mais je suis peut-être ça. » Puis là, tu sais,
on dirait qu'on a l'impression que ça vient. C'est difficile, il faut se définir, là. Tout le monde te demande de te définir.
Mais se définir, mettons, ou je sais pas, j'ai l'impression que notre... pas problème, là, mais j'ai l'impression que nous, on est toutes des personnes qui, j'ai l'impression, s'adaptent aux gens ou qui changent quand même ou qui ont... Ils peuvent avoir ces craintes-là de identitaire. Mais je pense que ça vient quand même avec une intelligence émotionnelle et une anxiété. Mm-hmm. Mais le fait de changer... Tu sais, il y a des gens qui sont exactement pareils avec tout le monde, qui parlent de... tu sais, whatever,
la même chose avec leur grand-mère qu'avec leurs amis, qu'avec, ils n'ont pas le skills de « OK, mais c'est pas ça le... » Ça n'intéresse pas les gens. Ouais, c'est pas le moment. Ou c'est pas, il y a des gens qui ne changent pas du tout. Ou qui n'ont pas c'est conscience de leur environnement. C'est quoi qui est mieux?
C'est ça, c'est tough.
C'est quand même des fois... Ouais.
Dans les deux côtés, il y a des...
J'ai l'impression qu'il y en a un qui est mieux pour les autres puis un qui est mieux pour son estime. Ou son
eux, c'est pas ça. Une question.
Mais... consistante dans la vie, là, j'ai l'impression que je change avec chaque personne qui je suis. Là. C'est difficile parfois.
Mais je pense qu'il n'y a pas de bonne manière de faire. Puis que, comme, dans tous les cas, être quelqu'un, c'est un peu comme être un aventurier. Genre, mais même celui qui change pas nécessairement tant que ça, c'est juste qu'il a pris le sentier qui était déjà fait dans la forêt. Puis il y en a d'autres qui... C'est ça. Puis il y en a d'autres qui prennent les... petit bout où il y a des branches partout, des arbres, des toiles d'araignée, puis c'est comme plus rough, mais dans tous les cas, t'es un aventurier, genre, puis tu te découvres, genre, même quand tu prends les petits sentiers plus relax, si on peut dire ça de même, ben, t'empognes des roches, des trous, des fois, c'est pareil, c'est comme, dans tous les cas,
t'en es dans la même place. C'est juste plusieurs parties de toi que tu montes à certaines personnes, tu sais, il y a quelqu'un qui vient rechercher une partie de toi, puis t'es comme ça avec cette personne-là, mais l'autre, c'est pas pareil, puis c'est ça qui fait que c'est beau aussi. Là.
Mais c'est la différence aussi entre changer, mettons, changer complètement de... que moi, je me sentais comme ça avant, que j'étais comme une éponge à opinion, que mes opinions, j'en avais pas vraiment, puis que je changeais. Mais tu sais, on a des principes, on a des valeurs qui se développent avec... au fil de nos interactions. C'est normal de montrer plus une partie. L'autre, moi, j'ai pas le même humour avec ma famille qu'avec vous. Je sais, c'est pas les mêmes choses qui vous font rire.
Ben oui.
Ça, c'est pas mal, mais tu changes pas ton essence. Tu vas pas... je sais pas, quelqu'un... Mettons que quelqu'un parlerait contre vous, je vous défendrais. J'étais pas avec
c'est
vous.
C'est des tabernacles.
Ah ben oui, si des tu le dis, c'est des...
Je les déteste, je vais arrêter le podcast.
Pardon. J'ai utilisé des sacrements, désolée.
Mais pensez-vous qu'avant, les gens, ils étaient plus capables de s'identifier à quelque chose facilement, genre?
Je suis allée à une exposition aujourd'hui. Je voulais vous partager une petite phrase d'une artiste qui s'appelle Marisol.
Marisol.
Il y avait un endroit où c'était noté, donc expérimentation plastique. Et elle a écrit « Toute ma vie, j'ai appris à être patiente, à chuchoter, à ne pas crier, à penser différemment, à suivre le courant marin, à humer le vent et à être fière d'être une artiste. »
Ah, c'est beau.
Oui, c'est beau. Puis je trouve que ça témoigne aussi d'une génération passée où, en fait, on apprend avec le temps, la patience, etc.
En fait, les codes sociaux étaient tellement aussi beaucoup plus figés, comme ce qu'on disait tantôt. On avait moins de marge de manœuvre. Maintenant, même, en fait, même physiquement, même dans nos styles vestimentaires, on répand des nouvelles manières de s'habiller. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, les codifications étaient tellement fortes, tellement précise et enfermante que les femmes, les hommes, les jeunes femmes, les vieilles femmes, les vieux hommes, les jeunes hommes étaient à des places prédéfinies. Puis les personnalités plurielles n'étaient pas appelées pareil. Genre, il y avait le cancre et le bon élève. Et puis, toute la marge entre les deux...
Alors, on avait moins de nuances, c'est sûr.
Oui, c'est ça. Il y avait moins de nuances, exactement.
Mais la notion aussi de... Oui, c'est ça, d'être individu. Mais surtout d'être vu par les autres. Ah ouais. Comme de quoi, je sais pas, je sais que pour moi, pour mes parents, pour ma mère, là, c'est comme un peu inconcevable de vouloir se montrer, puis se partager, puis se raconter en ligne. Ben, autant que chez nous, on ferme tout le temps les rideaux, là, mais tu sais, comme, c'est pas tout pareil, là. C'est pas toute une génération qui pense pareil, mais je pense quand même que nous, on a grandi un peu plus avec cette notion-là de, d'être vu.
D'être vu, ouais.
Donc, puis on est des voyeurs.
Ah oui,
c'est on vrai. Est des... Oh là là.
Mais on a... on normalise un peu ça, là.
Oui. On sait comment nous, on peut juger, fait que peut-être...
Ah, ça me fait peur. Mais moi, c'était mon point, si vous voulez qu'on aborde. Genre là, c'est le point parfait. Ben, j'ai eu une réflexion par rapport au numérique. Je me suis rendu compte qu'il y avait comme un étalage de la place publique qui se passait de manière régulière sur les réseaux sociaux, où soit on étale notre personnalité pour s'en vanter entre gros guillemets, mais en tout cas montrer le meilleur de ce qui on est, des photos qu'on prend, de ce qu'on est en train de vivre. Soit on est aussi dans un double rapport d'espionnage, en fait, de cette vie sociale que autrui partage. Puis on peut avoir accès littéralement. Déjà, nous, on a accès à toutes nos données, genre les réseaux sociaux, genre ceux qui possèdent les réseaux ont accès à toutes nos données. On est en train de créer une crise écologique juste à cause de toutes les données qu'on est en train de foutre sur les réseaux. C'est un truc de malade. Et il y a toutes ces espèces d'accointances, tous les vices sont permissibles sur les réseaux. Tout ce qui tout ce qu'on n'aime pas, nous, genre la jalousie, le fait d'aller genre stalker des gens, d'aller se retrouver à faire des mises en scène, tout se passe, tout peut se passer genre sur les réseaux. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être les pires personnes. Mm-hmm. On peut aller insulter, clairement, on peut aller insulter une femme. Personne ne le saura, genre. Notre génération est dans la capacité de faire sortir le pire et le meilleur de soi. Genre, c'est c'était les extrêmes opposés qui se rencontraient dans les réseaux, qui, comme la place publique d'une seconde vie, mais on vit tous une deuxième vie, comme le disait Marine. Puis, je sais pas comment est-ce que vous vous percevez là-dedans. Comment est-ce que vous vous y sentez dans cette vie numérique?
Mais Rosie, t'allais dire quoi? T'allais dire quelque chose?
Ouais. Ouais, mais je me sens que je vais trop loin dans mes complots de sciences sociales. Je trouve ça intéressant que tu nommes la jalousie parce que je trouve que ça maintient la jalousie. Tu sais, c'est comme la jalousie a toujours été là, ben, toujours historiquement, là, mettons en Occident par exemple, la jalousie était là, mais elle se manifestait moins étant donné qu'on était dans des relations monogames. Puis, étant donné que là, ben, on commence à être plus dans la déconstruction des relations, puis de l'apport que ça pourrait avoir au niveau politique, puis de la libération que ça pourrait signifier pour certaines populations, c'est comme si c'était une entrave, en fait, à cette libération-là, parce qu'on maintient la jalousie en nous donnant des plateformes pour être plus voyeurs, voyeureuses. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire?
Oui.
Mais aussi, je trouve cette émotion-là, c'est une émotion, oui, est comme moins taboue un peu. On dirait qu'on peut quand même la nommer, me semble, j'ai l'impression.
La jalousie?
Oui. Vous trouvez pas? J'ai l'impression que c'est moins mal vu quand même de dire, genre, je suis jaloux, parce que, tu sais, on est tellement dans une société où, genre, il y a possibilité de l'être.
Ouais, on arrive bien à la déconstruire.
Mais mettons, par rapport aux réseaux sociaux, c'est très connu, même des réseaux sociaux. Là, il y a une application, tu sais, qui capitalise un peu sur ça, mais j'ai jamais compris le monde. Tu sais, les applications pour voir qui s'abonne et qui se désabonne à toi.
Qui te stalke.
Wow. Qui te consulte ton profil, c'est comme...
Hey, c'est intense.
Tu crées des scénarios dans la tête, te mettre l'emphase là-dessus. C'est, tu sais, je blâme pas les gens qui le font, là, mais comme...
Non, mais c'est hormonal, c'est neuroscientifique, genre. C'est nos cerveaux qui sont stimulés par le fait d'avoir cette connaissance-là. On est genre dans une curiosité.
Ça touche notre ego aussi, là, c'est comme...
Ouais, ça touche notre ego. Puis ça nous libère de la sérotonine d'avoir ces connaissances-là qui sont secrètes.
Ouais.
En fait, vraiment, premier degré, ton cerveau, quand il sait un truc secret ou que, par exemple, il arrive à stalker quelqu'un et puis qu'il découvre un truc genre secret, etc. Vous voyez, cette espèce de rapport secret ou non, ça stimule nos hormones du plaisir.
C'est attendu de toi que tu contrôles ton image.
C'est
comme
attendu de toi, ouais.
La photo a plus d'importance et mis à un statut plus élevé parce que tu l'as choisi de le mettre là. Je sais pas, c'est comme...
C'est un choix.
C'est muséifié. Hein?
Comme les photos sont généralement que quelqu'un d'autre publie de nous, on met moins d'importance que ceux qu'on publie de nous-mêmes. Parce que...
Ouais. Mais tu sais, même sur BeReal, là, on est vraiment pas vrai. Tu sais, genre, t'as tellement...
C'est pour ça que j'ai arrêté l'utilisation.
C'est une application que tu dois, genre, prendre une photo. Au même moment, tout le monde devrait prendre la photo. Puis, c'est on voit devant, puis l'autre bord de la caméra aussi. Mais t'es pas vraiment obligé de la prendre sur le moment. T'sais, t'as le temps de la prendre après. Fait que je pense que la plupart du temps, la prennent pas au moment où on est tous supposés la prendre.
Mais
fait t'as
seulement accès aux photos des gens quand toi, t'as pris ta photo aussi.
Oui, c'est ça. Fait que là, t'es comme, oh my God, je veux voir ce que les autres font. Fait que peut-être que je vais mettre une photo, genre. Mais là, t'es comme, oh non, mais je suis dans ma chambre, je fais rien. Genre, je vais avoir l'air
poche.
Mais c'est
ça, mais ça crée
ça crée l'inverse de ce qu'ils voulaient créer. Parce que je pense que cette application voulait justement, comme, genre, désacraliser la photo. Mais au final, on a nos propres biais.
Oui, c'est ça que j'allais dire. Mais c'est juste que c'est intéressant, comme justement, on veut prétendre un peu, j'ai l'impression que Instagram, c'est casual, genre, tu sais, c'est naturel. Puis on veut utiliser ça comme une plateforme pour parler de nous à la maison, que on n'est pas toujours nous avec les filtres, mais que même ça, ça va devenir un peu un terrain de comme d'entreprise de soi. Tu sais, comme même ça, on va se vendre. On va vendre les moments de notre vie comme des tranches de vie un peu anodines, alors que dans le fond, même ces moments-là, on va les
mettre en scène.
Ouais, on va les mettre en scène, c'est ça. On va performer.
Mais si je peux donner un exemple.
Bravo pour le mot performer, Rosemarie.
Mais juste comme le concept des stories, c'est ça un peu, là, tu sais, c'est un peu l'hypocrisie de faire comme « Ah, je vous montre ma vraie vie, là, vraiment, comme, tu sais, même le format vlog, c'est un peu ça, tu montres ta vraie vie, ouais, mais t'es quand même plus tenté à mettre une story quand t'es au show de Beyoncé que quand t'es dans ton lit, fait que tu montres quand même les bons moments de ta vie.
Ouais.
Puis il y a quand même cette comparaison-là de qu'est-ce que les gens sont en train de faire en ce moment. Je trouve que c'est... On se compare beaucoup plus à ça.
Oh, waouh! Tu viens de me faire réaliser un truc horrible, Léa. Nous, nos photos d'enfants à nous sont prises sur le fait. Nos parents, ils rentraient dans notre chambre, on était en train de lire notre kit paddle, genre sur notre lit, puis on n'était pas en train de poser. Les photos de maintenant, même moi, les photos que mes parents prennent de nous, la famille, on est tous en train de poser. On n'est plus dans des moments, genre, vous savez, des instants. Vous savez, nos photos d'enfants, on s'aime pas trop justement parce qu'on est là, une tête dégueulasse, parce qu'on est en train de faire n'importe quoi.
Ça, tout le monde est genre, oh, souris, fais une face. Mais tu sais, c'est comme, tu peux pas la faire justement quand on est naturel. Genre, arrête de. Demande pas ça, là, tu sais.
C'est vrai.
Tu perds le moment complètement, là. Ça sert plus à rien.
On est en train de rentrer dans un autre moment, du coup.
C'est ça. Puis tu sais, justement, sûrement qu'ils pensent aux parents être un peu, faut qu'on aille d'avoir du fun, genre, pendant le souper. Fait que, souriez, regardez-moi, tu sais, tout ça. Fait que. T'sais, après ça, c'est justement, t'as encore plus envie de...
Mais avoir l'air d'avoir du fun.
Ben, c'est ça.
C'est fou.
On sait plus qu'est-ce qui est vrai, tu sais. Il n'y a plus rien de vrai, on sait pas, tu sais.
C'est vrai, puis
c'est épeurant, là.
Oh my God!
On n'irait pas. Ben oui, mais combien de... Ça aussi, là, j'ai vu des histoires de... On fait une mise en scène pour que mon ex pense que je suis je parle pas d'une expérience personnelle, mais juste de mettre en scène, genre, on va sortir. Ah oui, je veux sortir parce que je veux montrer à telle personne que j'ai du fun. Le fond, la motivation de faire des choses, c'est juste... d'espérer être vu par une certaine personne.
Mais c'est pour ça qu'on a de la misère aussi à être authentique, sûrement, maintenant, genre parce qu'on sait pas quand on est vrai ou quand on n'est pas vrai. Ouais.
Mais mon rapport... je dirais que j'ai un déficit d'attention, puis je sais que c'est en lien avec TikTok, mais je dirais que c'est juste comme une manière de me divertir et de procrastiner parce que c'est plus facile de regarder TikTok que de faire les choses que je dois faire et de réaliser par après que je suis pas capable de faire ces choses-là si je m'engage dans... T'sais. C'est une manière de procrastiner. Mais mon rapport à ça, je sais pas. Moi, pour vrai, le fait que ça soit des petits vidéos et tout... c'est sûr que c'est pas bon pour notre attention, puis overall, c'est pas bon juste pour nous d'être dans le moment présent, puis on est tout le temps comme distrait. Mais j'aime le fait que c'est une application qui est utilisée par plein de groupes, puis par plein de classes sociales, puis par plein de... plein de groupes. Parce que, tu sais, moi, par exemple, quand je vais avoir un avis, puis que j'ai vraiment besoin de me renseigner, comme, puis d'avoir des sources fiables... Je vais sur TikTok. parce que, tu sais, il y a des dermatologues sur TikTok, il y a des professeurs de yoga, il y a des artistes. Fait que c'est juste, ça fait en sorte que les idées sont vraiment accessibles, puis la manière aussi qu'on présente nos idées. Mais...
Is TikTok is the new Google?
TikTok is the new encyclopédia, I would say. Awesome.
Wikipédia is dead, now it's TikTok.
Ouais, maintenant c'est TikTok. Mais ça revient en même temps un peu à ce que je disais tantôt, qui est comme plein de vérité. Puis je trouve que c'est une manifestation de toute cette vérité-là. T'sais, sur une même plateforme, il y a tellement... de points de vue qui convergent, puis qui se contredisent, puis qui se nourrissent entre eux. Donc, voilà. Mais mon rapport à ça, je dirais que
j'envoie des TikTok à Léa, puis qu'on les regarde quand on est ensemble. Puis je veux pas qu'elle les regarde sans moi.
Mais genre, j'ai un autre point avec TikTok, tu sais, c'est comme le fait que c'est tellement des petites vidéos, on dirait, on est tout le temps genre dans, comme, être pressé, genre, puis comme changer vite de vidéo, puis passer à autre chose, genre, fait qu'on dirait que ça fait aussi que on veut tout faire vite, genre, puis on est comme impatient un peu, genre, moi, je trouve que je le suis full, genre, maintenant, quand j'écoute des longues vidéos, ben, on dirait que je trouve ça plate, puis je trouve ça long, genre, fait que, tu sais, même dans ma vie, j'ai l'impression que j'essaie tout de faire tout vite, des fois, puis je suis comme pressée, tu sais, juste quand je me fais à manger, genre, je suis comme, de même, là, je passe là, je vais là, je mets ça là-dedans, puis, tu sais, je suis comme, genre, mon coloc m'avait dit que j'étais un peu stressante quand je me faisais à manger, mais c'est ça, on dirait, je veux trop aller vite, puis je pense pas que ces applications-là nous aident tant à prendre notre temps, genre.
Mais moi, je pourrais mettre une thèse qui a été montrée de notre génération, justement, avec nos troubles de l'attention, mais qui sont vachement liés à tout ça. Puis je la mettrai en description du podcast, que vous lisiez ça, mais je pense que c'est en anglais, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai marquage de notre capacité, par exemple, à lire. Et ça, c'est fou. Genre, moi, j'étais une grande lectrice, puis... maintenant que je suis depuis plusieurs années exposée à des contenus instantanés, des contenus médias, sociaux, vidéos, tout ce que vous voulez, mon temps d'attention pour la lecture est tellement raccourci. Un truc de dingo. Je pense réellement qu'il est vraiment dur pour moi de lire à l'heure actuelle, alors que j'en ai fait pendant 2 ans mes études. Genre, j'ai lu, en une année, j'ai lu 56 bouquins. Genre, vous voyez ce que je veux dire?
Non, c'est fou. Mais c'est, je pense que... il s'agit juste de trouver un équilibre, là, comme dans tout, dans le sens que je pense que les réseaux peuvent nous apporter du bien si comme, on arrive à trouver les contenus qui nous font du bien.
Dans tous les cas, c'est genre inévitable en même temps d'avoir les mauvais côtés des fois.
Autant en faire une force.
C'est ça.
Autant en faire une force.
Mais c'est ça, c'est sûr, on dirait que c'est comme facile. C'est ça. On dirait dans tous les cas, tu vas les avoir les mauvais côtés. Mais justement, si tu trouves un équilibre, qu'est-ce qui fait plus de bien, mais là, ça en vaut plus la peine. Dans vie, on dirait que tout ce qui va nous amener du bien va aussi nous amener du mal. Mais là, on dirait que les réseaux, c'est facile de tomber dans une majorité de mal pour une minorité de bien. Mais je pense que si tu trouves un équilibre, mais c'est pas facile de le trouver. On dirait qu'il faut que tu passes de l'extrême de OK, je vois plus pantoute à avant, j'étais trop intense, là, je vois plus pantoute. Puis après, tu comprends mieux peut-être genre, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui t'en fait moins. Puis là, tu vas aller comme plus le consommer d'une manière saine pour toi, genre. Puis je pense pas que la manière saine pour une personne est la même que pour une autre. Puis tu sais, ça dépend de qui t'es, genre, de qu'est-ce que t'as besoin, puis tout. Mais tu sais, je pense que c'est vrai que ça peut nous amener à découvrir, à... tu sais, en tout cas, mais c'est juste que c'est dur de trouver cet équilibre-là, je pense.
Mais aussi le fait que ça soit nouveau, on n'a pas encore vraiment trouvé l'équilibre, justement, là. Tu sais, je pense que c'est normal quand quelque chose arrive dans notre vie, dans l'excès, puis d'après ça, je sais pas... peut-être qu'on va réussir à mieux balancer ça dans le futur. Mais comme...
Tu dois pouvoir dealer avec pour pouvoir bien l'utiliser. Puis vu qu'il est rose et plein de paillettes, c'est un peu difficile de bien l'utiliser. Je trouve ça comme métaphore. Et moi, je voulais parler juste de mon expérience vite que j'ai pas eu de Wi-Fi pendant genre un mois chez moi. Un mois ou 2 mois, je sais même plus. C'est comme une période un peu longue, où j'avais un forfait qui mettait du temps à se réinitialiser. En tout cas, le fait est que chez moi, j'avais pas de Wi-Fi. Et j'étais, mais comme... mon rapport, mon téléphone était tellement changé. Je downloadais des trucs que j'allais écouter chez moi. Et en fait, la plupart du temps, j'écoutais pas grand-chose. Puis j'étais juste dans mes pensées. Et je me suis rendu compte que j'avais tellement plus d'idées qui me venaient naturellement. Genre, je m'en mettais à chanter, puis être là, genre, « Ah, c'est bon, ça !» Puis je m'enregistrais, puis... j'étais comme dans un truc de création personnelle qui était vachement plus vivante parce que justement, j'étais pas distraite par tout le brouhaha des réseaux sociaux.
Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux prennent tout ton focus, on dirait, quand t'es dessus vraiment trop intense.
C'est ça.
Ouais, mais même, tu sais, juste comme télécharger du contenu, tu sais, là, t'as téléchargé quelques trucs, donc tu perds pas 2 heures à changer de film puis à. Il y a toujours quelque chose de mieux que je pourrais écouter. Mais des fois, moi, je suis comme ça. Je suis comme plein d'onglets ouverts avec plein de vidéos. J'arrête après 2 secondes. Non, c'est pas ça que j'ai écouté. Puis c'est comme... tu sais, il n'y a rien d'assez bon, toujours quelque chose de mieux ailleurs, on dirait. C'est
difficile de se poser. J'avais 4 films sur mon ordinateur portable.
Fait que, quoi?
J'avais 4 films sur mon ordi que je les ai regardés, je pense, 3 fois chaque. C'est vraiment ça.
C'était Les accoucheuses d'idées, présentées par
Michaud.
Cassandra Gien.miniciné.
Marie Berger.
Léa Longol.
Marie Major.
Est-ce qu'on pourrait pas chanter une chanson mutuellement tout ensemble pour qu'on puisse se mettre dans une énergie jolie, genre?
Vous connaissez Vent frais.
Vent du matin.
Ah oui.
Vent qui souffle au sommet des grands pins. Joie de vent qui souffle, allons dans le grand vent frais. Vent du matin.
Vas-y.
Vent qui souffle au sommet des grands pins. Joie du vent qui souffle, joli en vent frais, vent du matin. Vent qui souffle au sommet des grands pins.
J'ai essayé de faire un canon, mais je me suis dit, il n'y a pas des paroles.
C'est bon.
Ah, mais ça marche.
Je suis en train de faire un canon.